Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, une émission confinée, donc je suis chez moi, vous êtes chez vous, les invités aussi, libraires et chroniqueurs pareil, et Boris Paczynski est derrière la console, ouf, pour donner de l'allure à tout ça et recoller tous les morceaux. Exceptionnellement, on ne commence pas par une première phrase de roman culte, mais par un hommage. Astérix, comme vous le savez, est orphelin après René Goscinny en 77, son co-créateur Uderzo est mort mardi dernier. C'est François Clotot, le fondateur du journal Pilote, qui avait demandé à Uderzo et Goscinny d'inventer une nouvelle bande dessinée, mais avec une obligation, être ancré dans la culture française. Alors, ils pensaient d'abord adapter le roman de Renard, très français, oui, mais ils apprennent que le projet est déjà en cours. La suite, Uderzo l'a raconté à Dominique Souchier sur Europe 1 en 2008.
Catastrophe, nous étions à 2 mois de la sortie du journal, et là, vite, il a fallu qu'on se dépêche en disant, voilà, il faut trouver quelque chose, Et l'idée des Gaulois, évidemment, nous est venue à l'esprit, parce que quoi de plus français que nos ancêtres les Gaulois? Et voilà, et en un quart d'heure, on avait, disons, déjà tout imaginé, le druide, le barde, les noms qui se terminent en Rix, à cause de Vercingétorix, bien sûr.
Et Astérix qui commence par un A. Qui pourrait croire qu'Astérix s'appelle, oui, Astérix parce que ça commence par un A?
Oui, alors là, c'était une caquetterie de l'auteur René Goscinny, qui voulait absolument que, à ce moment-là, on connaissait déjà des encyclopédies sur la bande dessinée. Et avoir un personnage qui commence par un A, on était sûr qu'il était dans les premiers, dans la pavillonnation de ces encyclopédies. Comme quoi, voyez-vous, la coquetterie d'un auteur, du coup, ça va.
Et voilà comment un mythe est né. Au passage, on salue bien bas notre maître, Dominique Souchier, et on remercie le service des archives d'Europe 1 qui conserve jalousement toutes ces pépites. Tout à l'heure, les libraires de l'émission nous rejoindront, par ligne, évidemment, et puis nous visiterons la bibliothèque du philosophe fou de littérature, Raphaël Antoven. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Bonjour Colombe Schneck.
Bonjour Nicolas Caro.
Vous signez Nuit d'été à Brooklyn chez Stock. Très bon roman, on en parle tout de suite. Très belle couverture aussi, on va en parler. Mais d'abord, comment ça va? Où est-ce que vous êtes confiné? Comment ça se passe?
Alors moi je suis dans ma cuisine et je dois dire qu'une vie d'écrivain, pour écrire ce livre, je me suis confinée pendant 2 ans, donc on peut dire que j'ai pris des bonnes habitudes. Je travaille entre ma cuisine et ma chambre. J'ai beaucoup de chance, d'abord je suis en bonne santé, mes proches aussi, et être chez moi, lire, écrire, finalement c'est ma vie habituelle, même si en ce moment je dois dire que je ne l'écris pas du tout et je ne lis très peu et je fais essentiellement le ménage et la cuisine.
C'était ma deuxième question. Est-ce que c'est un moment propice à l'écriture, à l'observation de ses contemporains, ou alors c'est un peu trop angoissant et ça bloque un peu le processus?
Alors ça devrait l'être, mais je veux dire, je suis obsédée par les informations, par ce qui se passe autour de moi, et je n'ai pas écrit une ligne. Essentiellement, je regarde les informations, je lis les informations. Et je fais le ménage, voilà. Donc c'est pas une vie d'écrivain dont on pourrait rêver en dehors.
Alors je signale aux auditeurs qu'évidemment vous êtes chez vous, je suis chez moi, et on a réussi à établir la liaison. Voilà. Alors venons-en au fait quand même, le roman Nuit d'été à Brooklyn. Nous sommes en 1991 à New York et le livre s'ouvre sur un fait divers, mais alors je dois dire qu'il est très bien raconté. C'est une bonne gifle d'entrée, c'est un accident de la route, assez banal finalement, mais qui aura des conséquences terribles. Vous nous le racontez?
Un accident que j'ai reconstitué le plus précisément possible, parce qu'il en restait sur ces faits même, un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Gavin Gatto, qui joue avec sa cousine Angela sur un trottoir d'un quartier de New York, à Brooklyn, est tué par une voiture. C'est un accident banal, mais même cet accident qui est banal, qui est terrible, qui est une tragédie, les faits se contredisaient, les témoins se contredisaient. Et j'ai commencé par reconstituer cet accident en croisant toutes les sources possibles pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, malheureusement, comme dans tout accident, c'est la malchance, c'est le... Il n'y a pas de complot pour tuer ce petit garçon, il n'y a pas de destin, il n'y a pas... Mais ça va... Parce que c'est un quartier particulier, Crown Heights est un très rare quartier aux États-Unis où des blancs et des noirs vivent ensemble. Comme vous le savez, il y a une ségrégation très forte aux États-Unis. Donc, à certaines tensions communautaires entre les Blancs qui sont des Lubavitch, une secte juive orthodoxe, et les Noirs qui viennent de en majorité des Antilles, de la Jamaïque. Les deux communautés appartiennent à la même petite classe moyenne, disons. Il n'y a pas de différence sociale énorme. Mais n'empêche qu'il y a des jalousies, il y a du racisme et d'antisémitisme de l'un et de l'autre.
Il faut dire que le chauffeur est juif et que le petit garçon est noir.
Voilà. Ça pourrait être l'inverse.
Oui.
C'est ça. Il y a eu d'ailleurs des accidents dans ce quartier-là qui ont été l'inverse. Mais parce que le petit garçon est noir, parce qu'il y a ces tensions et ces violences, il y aura tout un tas de rumeurs qui font que pendant 3 jours, des jeunes noirs, eux-mêmes victimes du racisme, de la violence de la police, vont crier pendant 3 jours « À mort les juifs et vive Hitler !» à New York sans que la police intervienne. Il y a un étudiant australien qui est tué le soir même, poignardé parce que juif. Et en fait, moi je suis jeune journaliste à l'époque, je pars faire mon premier stage pour Le Monde, et j'arrive à New York, qui est une ville très juive, où être juif c'est normal, c'est-à-dire votre dentiste vous souhaite Happy Hanukkah, enfin... et tout d'un coup, il y a cette défaillance antisémite, les jeunes qui crient « Vive Hitler enfin, !»
Oui, alors parce que dans le roman, à cette même période, il y a Esther, 24 ans, qui est française, qui fait un stage pour le journal Le Monde. Et donc, on a compris que c'est votre double littéraire. Elle est juive et elle tombe amoureuse d'un homme marié, beaucoup plus vieux qu'elle. Et il est professeur de littérature française à l'université et il est noir. Et c'est donc le récit aussi de cette histoire d'amour, du stage d'Esther, perdu dans New York durant l'été 91. Et on passe de l'un à l'autre. Un mois avant l'accident, une semaine avant, le jour d'après, tout tourne autour de cet événement.
Vous savez, on est toujours à se dire si c'était pas passé ça, qu'est-ce qui serait, voilà, comment les choses auraient changé, quelle est la part de chance, de malchance dans une vie, comment on peut échapper à quand on est en dehors, je vois ce qui se passe aujourd'hui avec cette pandémie, on peut pas s'empêcher de se pencher, mais si cette pandémie n'était pas arrivée, si les drames autour de nous n'arrivaient pas. Et c'est toujours cette idée que tant que les drames ne sont pas là à notre porte, finalement, ce sont nos drames intérieurs, nos drames intimes qui ont le plus de place. On est obsédé par nous-mêmes, par nos histoires d'amour, par nos drames intimes, parce que les drames extérieurs, finalement, nous atteignent peu. On passe plus de temps à s'angoisser pour ses problèmes personnels que pour la fin dans le monde, je dirais de façon caricaturale. Et c'est ce qui se passe un peu pour Esther et Frédéric. C'est une histoire d'amour de deux personnes qui ont la volonté d'échapper à leur assignation identitaire. C'est-à-dire que Frédéric est noir, on sait ce que c'est être noir aux États-Unis, la violence que ça suscite, mais les professeurs d'université, spécialistes de Flaubert, et on lui reproche. On lui reproche, comme on pourrait le reprocher aujourd'hui à certains, pourquoi est-ce que tu ne dis pas les auteurs afro-américains ? Pourquoi tu choisis un auteur blanc est mort, et européen. Il veut échapper à ce qu'il aurait dû être, un noir. Il se voit d'abord comme un professeur d'université, un intellectuel, un spécialiste de Flaubert, un homme marié, un père de famille. Il va être rattrapé par son destin. Comme Esther aussi, elle veut échapper à l'histoire de sa famille, qui a été marquée par la Shoah, c'est une famille juive. Comme moi, j'ai été, j'espérais pouvoir échapper à l'histoire de ma famille. Je ne voulais pas m'y intéresser.
Mais c'est vrai que confrontée aux événements, cette histoire d'amour impossible mais forte paraît presque dérisoire et ça pèse pas lourd face aux questions identitaires que vous soulevez et à l'événement de cet été 91.
Mais pourtant, pour chacun, pour Esther comme pour Frédéric, c'est d'abord l'histoire d'amour qui prime pour eux. C'est ça qui les obsède. Et même quand il y aura l'accident, même quand aura lieu les émeutes, ils ne peuvent pas s'empêcher l'un et l'autre de revenir à cette histoire d'amour. Et je crois qu'on se voit ça aujourd'hui. Bien sûr, on est angoissé par ce qui se passe. Bien sûr, on se pense à ce qui se passe dans les hôpitaux, aux gens qui sont malades, mais très vite on revient à soi-même, à ses problèmes quotidiens, banals, à ses chagrins, à ce qui se passe autour de soi. On est constamment balancé, je dirais, entre le drame extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui finalement a plus d'importance, sauf quand on est atteint directement par ce drame.
C'est un roman assez virtuose, je dois dire, du point de vue de la narration, parce que on comprend très bien les enjeux de l'événement et de l'accident. En même temps, l'histoire est très bien construite, l'histoire d'amour entre Frédéric et Esther. Il y a une part dramatique très importante, évidemment, on ne va rien dévoiler. Et voilà, c'est un très très bon roman, bravo. Et il y a un mot sur la couverture quand même qui est magnifique. En France, on a un peu l'habitude des couvertures très sobres, très discrètes pour laisser toute la place au texte. Sur la vôtre, bon, il n'y a rien de spectaculaire non plus, mais il y a votre nom et le titre simplement, mais avec de grandes lettres blanches et rouges sur un fond bleu, elle claque cette couverture quand même.
Oui, je voulais... vous savez, j'adore les comédies romantiques américaines. Voilà, j'avais aussi l'intention de faire ça, une comédie romantique, et cette couverture rappelle aussi que c'est un roman d'amour et qu'il y a cet aspect du roman américain que moi j'adore. Enfin, en tout cas, j'ai tenté ce mélange de comédie, d'humour et de drame qui font la vie.
Nuit d'été à Brooklyn, c'est chez Stock. Merci beaucoup, Colombe Schneck.
Merci, Nicolas.
Europe 1.
Dans un instant, La Voix est Livre continue avec un roman culte, Le Comte de Monte Cristo. A tout de suite.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est Livre, il est l'heure de se pencher sur un roman qui a marqué l'histoire de la littérature, comme chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est un monument de la littérature, un mythe, l'un des romans les plus connus au monde. L'histoire d'Edmond Dantès en 1815, un jeune marin prometteur, dénoncé par deux camarades jaloux de son bonheur et de sa réussite. Il restera 14 ans au château d'If à Marseille. Son père, ses amis et sa fiancée, la belle Mercedes aux cheveux noirs de jet, comme dit Dumas, ne savent pas ce qu'il est devenu. Edmond Dantès va ruminer sa vengeance pendant ses 14 ans, mais surtout rencontrer l'abbé Faria, un vieil homme qui lui enseignera tout, des mathématiques aux bonnes manières, et qui, ça ne gâche rien, va lui révéler l'emplacement d'un trésor fabuleux, le trésor des Spada, sur l'île de Monte Cristo, au large de l'Italie. Mais d'abord, il faut s'évader du château d'If. Un jour, le vieil abbé Faria meurt, Dantès prend sa place dans le sac mortuaire. La suite, c'est dans le livre. Écoutez cet extrait lu par Éric Herson-Macarel.
Des pas se firent entendre dans l'escalier. Edmond comprit que le moment était venu. Il rappela tout son courage, retenant son haleine. Heureux s'il eût pu retenir en même temps, et comme elle, les pulsations précipitées de ses artères. On s'arrêta à la porte. Le pas était double. Dantès devina que c'étaient les deux fossoyeurs qu'il venait chercher. Ce soupçon se changea en certitude quand il entendit le bruit qu'il faisait en déposant la civière. La porte s'ouvrit, une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le couvrait, il vit deux ombres s'approcher de son lit. Une troisième à la porte, tenant un falot à la main. Chacun des deux hommes qui s'étaient approchés du lit saisit le sac par une de ses extrémités. « C'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre, » dit l'un d'eux en le soulevant par la tête. « On dit que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os, » dit l'autre en le prenant par les pieds. « As-tu fait ton nœud ?» demanda le premier. « Je serais bien bête de nous charger d'un poids inutile, » dit le second. « Je le ferai là-bas. »« Tu as raison. Partons alors. »« Pourquoi ce nœud ?» se demanda Dantès. On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière, et le cortège, éclairé par l'homme au falot qui marchait devant, monta l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse. Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s'arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. Un des porteurs s'éloigna, et Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-il. « Sais-tu qui n'est pas léger du tout ?» dit celui qui était resté près de Dantès en s'asseyant sur le bord de la civière. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint. « Éclaire-moi donc, animal, » dit celui des deux porteurs qui s'était éloigné. « Je ne trouverai jamais ce que je cherche. » L'homme au falot obéit à l'injonction, quoique, comme on l'a vu, elle fut faite en termes peu convenables. « Que cherche-t-il donc ?» se demanda Dantès. « Une bêche, sans doute. » Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait. « Enfin, » dit l'autre, «
C'est pas sans peine. Oui, répondit-il, mais il n'aura rien perdu pour attendre. À ces mots, il se rapprocha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. « Eh bien, le nœud est-il fait ?» demanda celui des fossoyeurs qui était resté inactif. « Eh bien fait, dit l'autre, je t'en réponds. Dans ce cas, en route. » Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit 50 pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avança. « Mauvais temps, dit un des porteurs. Il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit. »« Oui, l'abbé court grand risque d'être mouillé, dit l'autre. » Et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur sa tête. « Bon, nous voilà arrivés, reprit le premier. » « Plus loin. » « Plus loin, dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. » On fit encore 4 ou 5 pas en montant toujours. Puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds, et qu'on le balançait. « Une, dirent les fossoyeurs. Deux, trois. » En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer est le cimetière du château d'If.
Et voilà une très belle lecture du comte de Monte Cristo. Alors Dantès s'en sort, il doit maintenant trouver le trésor et devenir le comte de Monte Cristo pour assouvir sa vengeance. Nous aussi, on s'échappe un peu maintenant, il est l'heure d'aller visiter une bibliothèque, celle de Raphaël Anthoven. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, confinée, mais on va prendre l'air un peu, tiens, avec une attestation, puisque nous avons visité cette bibliothèque avant le confinement. Nous partons donc chez le camarade Raphaël Anthoven, que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien. Vous allez voir, c'est la première bibliothèque vraiment rangée que je visite. Bonjour Raphaël Anthoven.
Bonjour Nicolas.
Je suis très content de vous retrouver.
Moins que moi.
Chez vous, parce que vous avez inauguré cet exercice de la bibliothèque, sauf que les 5 premières
éditions... À l'époque, c'est vous qui veniez, oui.
C'est les invités...
Oui, c'est nous qui venions.
Qui venaient en studio pour me raconter ce qu'il y avait dans leur bibliothèque. Et évidemment, j'ai manqué plein de choses comme ça, puisque c'est les invités qui choisissaient par définition ce qu'ils voulaient bien me raconter. Et donc, je reprends depuis le début... avec vous, voilà. Et je viens chez vous.
Vous avez le panorama sous les yeux.
Merci de nous accueillir, et bienvenue. Je ne suis pas déçu parce que je vous ai demandé, comme à chacun des propriétaires de bibliothèques chez qui je me rends, je vous ai quand même demandé quelle était à peu près l'organisation de la bibliothèque, parce qu'il y en a, alors en plus chez vous il y en a énormément dans votre salon, j'ai pas dit, avec une cuisine ouverte, ça donne une grande pièce comme ça avec un Velux, c'est charmant, et tous les murs sont recouverts de livres. Donc, pour m'organiser un petit peu pour cette visite, je vous ai demandé comment c'était organisé. Et en fait, c'est...
rigoureusement alphabétique. Pendant longtemps, j'ai hésité. J'avais des systèmes mixtes. J'avais un peu d'alphabet pour la philo. Et en revanche, la littérature était rangée par ordre de préférence ou même parfois par collection. On aime beaucoup, quand on est adolescent, ranger les livres par collection. Et puis, c'était trop compliqué. J'avais, comme dirait l'autre, trop de chemins, trop compliqué à prendre, trop de méandres. Et donc, j'ai finalement choisi de passer à l'ordre alphabétique qui va de Spinoza à San Antonio. Et au moins, c'est clair.
Mais j'ai jamais vu ça parce que j'ai vu des organisations par pays à l'intérieur desquels étaient organisés par ordre alphabétique. J'ai vu par collection, par maison d'édition, et puis parfois dans cette organisation-là par ordre alphabétique. Là, ça va de A à Z pour Toutes collections confondues, toutes nationalités,
toutes catégories. Parce que les présents, a priori, ont quand même passé le filtre d'une forme de sélection et contiennent suffisamment de joyaux pour voisiner avec d'autres. Voilà, ils sont à leur place. Et puis ça fait des rencontres inattendues. Je veux dire, si on n'était pas dans l'ordre alphabétique, j'aurais pas à la suite Dandisme, Dante, Daoud, Darwin, David, etc. Ce sont des rencontres improbables que ménage l'alphabet.
Tiens, vous êtes vous situez où, vous, dans la bibliothèque, entre qui et qui, en tant qu'écrivain ?
Je me situe très exactement entre Antoine Père, forcément.
Ah bah oui, forcément.
Et Épictète.
Ah, c'est bien.
Voilà, oui, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Épictète qui vient lui-même avant Épicure, puisque le T est avant le U.
On va plonger dans cet océan de livres, mais juste avant, je voulais savoir un peu quel était votre rapport à la bibliothèque. Est-ce que vous touchez les livres comme ça? Est-ce que vous mettez à genoux parfois devant pour faire une prière laïque ou quelque chose? Vous avez ce rapport-là ou
J'ai un rapport très utilitaire parce que c'est un outil de travail, donc je dois savoir à peu près où se trouvent les choses. Et en principe, je veux ne pas être déçu quand je cherche un truc, en fait. Donc la bibliothèque est ainsi organisée qu'elle comble à peu près 80% des demandes, des demandes spontanées, des réflexions, des idées, des intuitions, des trucs à trouver. Donc j'ai un fonctionnement utilitaire et par ailleurs, bon, je suis un peu comme tous les bibliomanes, un peu psychorigide. J'aime bien que les livres tiennent sur la même ligne. Ce qui est facile à faire sur les étagères qui ne concernent pas les enfants, si vous voulez, qui ne sont pas à hauteur d'enfant. Dès qu'une étagère est à hauteur d'enfant, immédiatement, ils font ce que je faisais aussi. C'est-à-dire qu'ils enfoncent les livres. C'est horrible. Et du coup, vous voyez, vous avez la biographie d'Edoui Plenel saillante, alors que Plotin est lui-même caché, enfoncé dans l'étagère. C'est comme ça.
Mais c'est vrai qu'elles sont pas très profondes, ce qui évite d'avoir trop de doubles rangées.
Ça dépend desquelles, en fait. Certaines ont des doubles rangées, ce qui permet véritablement de jouer, d'ordonner les choses et de les classer opportunément, et surtout d'ingérer, de digérer beaucoup de livres nouveaux. D'autres sont d'un seul tenant, ce qui est plus compliqué en termes de rangement.
J'ai pas précisé, c'est très très rare qu'on peut fumer chez vous et que vous êtes en train de fumer une cigarette, justement roulée d'ailleurs.
C'est vous qui le dites.
Et dans un salon,
je
ne
savais même pas
ça,
qu'on pouvait le dire. Moi,
on n'est pas devant une fenêtre, on n'est pas dans une cuisine, vous fumez dans un intérieur.
Non, mais c'est un espace de travail, puisque vous en parlez, j'en parle, c'est un espace de travail. Et c'est vrai que la cigarette est, en ce qui me concerne, en tout cas l'allié du travail. Quelque chose doit fumer pendant qu'on bosse.
Alors, on va donc s'y mettre, parce qu'il faut y aller. Mm-hmm. Je ne sais pas trop par où commencer, ce serait un peu trop facile de commencer par le A, mais juste par curiosité, quel est le premier? Philippe Abbastado, Le dernier déni.
Oui, c'est un très bon livre d'ailleurs. C'est un médecin qui a travaillé sur la mort et qui confronte son expérience de médecin à ce que par ailleurs il sait de la mort et qui en parle extrêmement bien. C'est le champion des dénis, de toutes les façons que l'on a d'esquiver la pensée de la mort. Et qui est mieux placé qu'un médecin pour assister à ça?
Ben justement, là, il y a le premier livre ancien sur lequel je tombe, qui est donc par ordre alphabétique et donc qui est entre deux livres neufs.
Et oui. Allez-y, ouvrez-le.
Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Alors, sur la tranche, rien n'est indiqué. Alcibiade.
Oui. C'est un livre sur Alcibiade enfant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains livres sont rangés quand le thème a plus d'importance que l'auteur. Quand le thème a plus d'importance que l'auteur, c'est le thème qui dicte l'alphabet. Donc un livre sur la tyrannie d'un obscur ou de quelqu'un d'inconnu ou de quelqu'un dont le nom ne me viendrait pas est rangé à T et non pas au nom de l'auteur. Là, c'est pareil pour une vieille biographie d'Alcibiade.
Il y a assez peu de livres anciens, d'après ce que je vois. Est-ce que vous n'avez pas ce rapport de bibliophile fétichiste avec le livre aussi?
Non, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques autographes, quelques livres anciens, mais c'est pas ça qui compte parce que les livres sont mes cahiers et on écrit plus difficilement sur une édition originale de la Critique de la Raison Pure que sur l'édition GF que j'ai cartonnée, qui est comme un palimpseste depuis 20 ans et sur laquelle j'ai moins de scrupules évidemment à gratter mes propres trucs. Donc non, ce sont surtout des livres de poche, beaucoup beaucoup de folios. Quelques livres un peu plus gros. L'essentiel, c'est la taille de la marge. Il faut qu'il y ait de la place pour écrire et il faut qu'il y ait des pages blanches à la fin.
Alors, c'est pas fait exprès puisque c'est pas ordre alphabétique, mais le fait est que une de vos obsessions, enfin une de celles que je vous connais, Albert Camus, se trouve donc par le hasard de l'alphabet, si on veut, ou par justement le non-hasard.
Vous l'avez sous les yeux.
Albert Camus, il y a, je sais pas. 35 volumes sur
oui,
de Camus.
Il est entre Campanella et Canetti, oui.
Qu'est-ce que vous avez avec Albert Camus ?
Ah, je l'adore. Je l'adore. Il est merveilleux. Je pourrais en parler pendant des heures. Je l'adore. J'aime surtout que les conférences qu'on peut donner sur Camus soient des conférences qui réunissent des gens d'obédience politique très diverse, antagonistes, et qui vraiment, vraiment, vraiment communient de gauche, de droite, dans le même amour, dans la même intranquillité camusienne, c'est-à-dire dans la même façon qu'ils ont de ne pas se satisfaire de leur certitude. Il y a quelque chose là de merveilleux dans les... Camus est vraiment pour moi un philosophe idéal, parce que c'est celui qui, avec des mots simples, et parfois des phrases extrêmement difficiles, a étendu au-delà de l'école et de l'université le régime de l'expertise. Il a transformé en expert quiconque le lit, quiconque fait l'effort de le lire. Et ça, pour moi, c'est infiniment précieux, indépendamment du fait que c'est le meilleur compagnon des gens qui croient pas en Dieu. Vous vous levez le matin, votre vie n'a aucun sens, bah, vous avez Camus. Vous avez Camus qui vous dit, bah, c'est pas parce que le ciel est vide qu'il faut pas mettre le pied au sol.
Et là, vous avez un des folios qui est sorti récemment, justement, qui est la correspondance entre Camus et Maria Cassares.
Oui,
et alors, je l'ai reçu aussi. Oui. Et c'est magnifique, c'est très très magnifique. Beau. Donc, c'est des lettres échangées entre les deux. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème quand même de ce qu'on fait des correspondances, quoi ? C'est-à-dire qu'on rentre quand même dans l'intimité des gens et ils n'avaient peut-être pas forcément envie qu'on partage ça.
Ça dépend des correspondances. Bien sûr, vous avez raison pour certaines d'entre elles. Mais il n'y a aucun doute que Diderot savait qu'on publierait sa correspondance avec Sophie Volant. Il n'y a aucun doute sur le fait que Blanchot et Lévinas savaient qu'on publierait leurs affaires. Camus et Char, d'une certaine manière, c'est la même chose. Camus et Maria, c'est autre chose. On est dans la famille des lettres à Lou, si vous voulez, comme Apollinaire. C'est-à-dire, alors Apollinaire écrivait les lettres à Lou en sachant qu'elles seraient publiées. Là, je ne sais pas ce qu'il en est. Le fait est que, d'ailleurs, si eux-mêmes avaient organisé la publication de ces lettres, ils en auraient probablement sucré un certain nombre, parce que là, tout s'y trouve et il y en a trop. On n'a pas besoin de tant de délices. Néanmoins, ce sont des lettres dont la qualité littéraire, même venant de Maria, est incontestable.
Ça, c'est sûr.
Europe 1.
De retour en studio, petit confinement temporaire et on ressort. À tout de suite.
Des livres, toujours et encore sur Europe 1 avec le Monsieur Littérature.
La Voix est livre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, les libraires de l'émission sont presque prêts. On repart d'abord faire un tour chez le philosophe Raphaël Antoven dans sa bibliothèque classée de A à Z.
On n'a pas encore parlé de philosophie et traîne ici un livre. C'est le problème de l'ordre alphabétique, c'est qu'ensuite, pour en rajouter et pour les ranger, forcément,
non, y a pas de problème.
Plein, c'est compliqué.
Non, il y a pas. C'est comme le mur des lamentations.
Il y a toujours un peu de jour.
Vous avez toujours de la place pour faire entrer un petit bout de papier.
Bon, tout ça pour dire que juste à côté, il y a un livre de Clément Rosset qui s'appelle Le réel et son double. Et vous m'avez fait découvrir Clément Rosset quand vous aviez vos chroniques le matin sur Europe.
C'est vrai, on en parlait le matin.
Vous en parliez de temps en temps.
À l'époque, on fumait tous les deux des cigarettes. Absolument.
Et c'est un de vos mentors, en fait.
C'est, je crois, le plus grand philosophe du 20e siècle. 20e, 21e siècle, oui. C'est un immense philosophe. C'est-à-dire d'avoir été le contemporain de cet homme, c'est comme avoir été le contemporain d'Aristote. On a cette chance-là. C'est le seul, à mon avis. C'est le seul qui soit de cette ampleur-là, de cette épaisseur-là, cette consistance-là. Pour parler un instant du livre que vous avez entre les mains, Le réel et son double, c'est une arme de guerre. C'est un livre dans lequel Clément Rosset s'attache à montrer toutes les façons que nous avons de fuir le réel. Comment faire pour ne pas regarder ce qu'on a sous les yeux ? C'est ça sa question, en fait, et dans ce livre. De sorte que ce livre, écrit en 1975, publié en 1975, écrit avant, est la meilleure arme de guerre contre les fake news aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur livre, il n'y a pas de meilleur ouvrage, il n'y a pas de manuel plus efficace contre la tentation des fake news.
Est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous raconter une nouvelle fois l'histoire que Clément Rosset raconte avec les étiquettes ? L'étiquette n'est pas ouvrée.
Ah, c'est beau, ça. C'est dans un autre livre.
J'y ai pensé très longtemps. Certains auditeurs l'avaient manqué, j'aimerais bien.
Regardez, c'est dans un autre livre qui se trouve, à Rosset, qui s'appelle Loin de moi et qui.
Éditions de Minuit.
Voilà, qui est ici, qui est une petite chose comme ça, qui est une étude sur l'identité. Et dans ce livre, Rosset raconte une histoire qui lui avait été racontée sur France Musique, qu'il avait entendue sur France Musique et qui l'a beaucoup intéressé, qui est l'histoire d'un jeune homme qui récupère la boutique de son père après sa mort. Le père était imprimeur, il imprimait des étiquettes. Et le gamin récupère la boutique et dans l'arrière-boutique, il tombe sur une boîte au sommet de laquelle le père a écrit « à ne pas ouvrir ». Et donc le fils, déférent au vœu de son père, n'ouvre pas la boîte pendant des années. Évidemment, moins il l'ouvre, plus il remplit la boîte de, tout ce qu'il ne, de toutes les réponses aux questions qu'il a pas pu poser à son père. Et puis au bout de 6 ans, il n'en peut plus, il ouvre la boîte et il découvre à ce moment-là que dans la boîte, il y a une centaine d'étiquettes avec marqué dessus « à ne pas ouvrir ». Et Rosset adore cette histoire parce qu'en fait, pour lui, le fantasme d'une identité immuable, stable, métaphysique, c'est le cœur de l'oignon, si vous voulez. C'est qu'on on pèle l'individu à l'infini, mais en réalité, on ne trouve rien. Et c'est ça qui est très fort chez Rosset, c'est que la plupart des gens considèrent qu'on a une identité immuable et qu'en fait, notre corps change, notre peau change, nos opinions peuvent évoluer, mais l'identité est là, à l'image des yeux qui gardent leur éclat. Alors que pour Rosset, c'est à l'intérieur qu'on évolue en permanence, alors qu'à l'extérieur, on est chosifié par le regard des autres. Donc, il a une conception crustacée de l'identité. Le corps est mou à l'intérieur et le squelette est exogène.
Je précise qu'en allant chercher Clément Rosset, donc les R, on a dû pénétrer dans votre chambre, donc dans votre intimité finalement.
Oui,
c'est Clément Rosset, on ressortira quand on aura parlé de Tocqueville qui est toujours dans votre chambre.
C'est vrai, c'est un effet de l'alphabet, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise.
Moi, ce qui me fascine chez Tocqueville, c'est... je me demande à quel point il peut être tellement notre contemporain. C'est-à-dire qu'il a vu, par exemple, tout le phénomène des réseaux sociaux.
Oui.
Et vous en aviez parlé aussi. Vous
pouvez... Oui, c'est le premier à dire qu'à l'ère démocratique, on se rapproche tellement de son souverain qu'on lui trouve toutes les bassesses du monde. Et que donc le désir de voir la bassesse du souverain témoigne d'un abaissement plus général dans les âmes que de la bassesse elle-même du souverain. Il est le premier à dire des choses comme ça. Il est celui qui, dans la démocratie en Amérique, fait le portrait d'un pays qui s'ennuie, d'un pays où l'individualisme a pris le dessus sur toute autre passion, où l'individu se retrouve esselé, seul, et où en somme l'État lui demande lui autre la liberté de penser et le trouble de vivre. C'est un écrivain extraordinairement contemporain parce qu'il appartient à deux mondes. C'est un aristocrate de cœur, il le dit lui-même, qui est démocrate de tête. La rationalité le porte vers la démocratie, le cœur, l'ADN, l'ontologie, le discours, le langage, le porte vers l'aristocratie. Cet éloignement de lui-même, qui l'oblige à penser contre lui-même, fait de lui le meilleur penseur, c'est-à-dire le meilleur critique de la démocratie. Et de ce point de vue, la lecture de Tocqueville est indispensable aux démocrates que nous sommes, dans la mesure où il est le premier à nous mettre en garde contre une liberté vaincue par sa propre victoire. Une liberté qui devient folle en démocratie parce qu'elle n'a pas de contrepoint, parce qu'elle n'a pas d'adversité. Alors c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de Troisième Reich. Donc on est seul, libre, et c'est la raison pour laquelle on pourrit sur pied.
On s'ennuie en fait, c'est ça.
On s'ennuie, ce qui est très dangereux, ouais. Ce qui est terriblement dangereux, ce que Tocqueville raconte lui-même dans la démocratie en Amérique.
Retournons dans le salon, Raphaël, parce qu'on a du coup, on est passé sur pas mal de lettres. Ah, on a Karl Marx, tiens.
Bah oui.
Le Capital, oh là là, moi j'ai jamais osé lire ce truc-là, c'est trop long.
Bah, il faut l'avoir avec un viatique, c'est-à-dire que vous avez l'excellence en mots du marxisme, par exemple, qui est juste à côté, hein, du Ménil, Renaud, qui est très très bien fait, le que sais-je sur Marx aussi peut guider la lecture, et puis surtout, l'ouvrage majeur d'Althusser, l'ouvrage collectif d'Althusser, de Balibar, de Rancière sur lire le Capital. On n'entre pas dans le Capital comme ça.
Ça sert à rien d'acheter le Capital, de commencer par la première page.
Ça sert à alimenter le système que le Capital conchit. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Bah, ça sert tout simplement. On fait tourner la machine, si vous voulez, en achetant le livre qui nous met en garde contre ceux qui font tourner la machine. Le Capital est un livre absolument majeur. La déconstruction qu'il propose des mondes marchands est décisive. Et c'est un livre dont, à mon avis, le meilleur introducteur est Raymond Aron. Parce que c'est celui qui a lu Marx de très très près. Et c'est celui qui a pointé le paradoxe chez Marx, selon lequel Marx était à la fois le diagnosticien de l'effondrement du capitalisme, mais aussi celui qui le souhaitait. C'est-à-dire celui, et de cette façon, il y a une ambiguïté chez Marx. Le capitalisme doit-il s'effondrer inévitablement, ou bien faut-il lui donner un coup de main? C'est-à-dire faut-il enclencher un processus révolutionnaire, être volontariste dans sa démarche? Voilà, tout est là. Tout y est. C'est dans un livre que peu de gens peuvent lire et comprendre que sont nés beaucoup de passions.
Et toujours par le miracle de l'ordre alphabétique, on aura rarement aussi bien sauté du coq à l'âne. On a Karl Marx, donc, et à côté, on a une biographie de Bob Marley.
Eh oui, bah oui.
Par Jean-Philippe de Tonnac.
Bob Marley, vous avez absolument.
Parce que Bob Marley. C'est une figure qui vous.
C'est une figure aimable. Il ne méritait pas davantage que sa biographie. Je trouve que je connais l'auteur aussi. Si vous voulez, Marivaux, qui est juste avant Marley, a plus de place. Jean-Luc Marion aussi.
Ah, on a Lipovetsky, L'ère du vide, ça c'est magnifique, c'était une belle anticipation aussi.
C'était une très belle anticipation, c'est un très beau livre, c'est un livre très important, et c'est un livre à mon avis essentiel. Le diagnostic de la vacuité à l'époque où il le formule est très audacieux et aujourd'hui est tout à fait pertinent. Il faut lire et relire ce livre aujourd'hui.
Ah oui, j'ai failli oublier, mais évidemment on passe devant. Mais alors cette fois, c'est très très, c'est ras de terre. C'est votre autre obsession, celle de Proust.
C'est pas mon obsession. Oh bah... Il y a pas mieux, c'est tout.
Ah bah voilà.
C'est juste que c'est le maître, c'est alors, le patron comme on dit.
Alors donc, voilà. Faut comprendre. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Non, ça c'est sur Proust, pardon.
Non, il y a plusieurs choses en fait. Vous avez.
S'il est là, la recherche.
Vous avez les biographies. Moi, je suis pas très bon sur la vie de Proust, la biographie de Proust. Ça m'intéresse moins que le texte lui-même. Donc, vous avez surtout la recherche dans tous ces états et dans cette édition merveilleuse, l'édition Quarto, qui est en un volume. Voilà, où tout s'y trouve, et ça c'est bien.
Il a été bien lu, mais il est un peu abîmé, c'est assez beau.
C'est pas celui sur lequel je travaille, celui-là. Celui-là est intouchable. Il y en a un autre qui est...
Comment vous avez découvert Proust et la recherche en particulier ?
Je l'ai découvert à l'âge de 16 ans, en première. Ma prof de français nous avait fait lire Un amour de Swann. Et comme elle commençait par le début, on riait beaucoup en lisant Un amour de Swann, et donc je suis entré dans la recherche par le rire. Et ensuite, ce qui est une porte d'entrée inattendue pour Proust, et ensuite j'ai continué ma recherche de la recherche en lisant La Prisonnière. Et puis j'ai tout relu, enfin tout lu en vérité, à 30 ans. Et depuis je n'arrête pas. Un livre qui vous rend la vie aimable sans se fatiguer à lui inventer une signification est un livre, à mon avis, dont l'utilité vient avant le grand âge.
Oui, on ne cherchera pas d'utilité à la littérature, évidemment, mais quand
non,
même.
Non, mais des vertus collatérales quand même.
Parfait,
hein. Des vertus collatérales. Un livre qui, comme Camus ou comme Proust, a le génie de prendre en charge des émotions ordinaires et de vous donner le sentiment que les questions que vous vous posez dans la nuit ont déjà été traitées par d'autres. Ce livre-là est éternellement de bonne compagnie.
Bon, on se quitte en souhaitant à tout le monde de lire Proust avant 80 ans.
Ah oui, carrément, et de le relire même.
Merci beaucoup, Raphaël Antoven.
Merci, Nicolas. Europe
1. Retour en studio et je rappelle le titre du dernier livre de Raphaël Antoven, Morale provisoire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup à Fabien Duchesne pour la prise de son. On se reconfine un tout petit peu et ensuite, balade chez les libraires.
Nicolas Caro.
La Voix et Livre hors les murs continue. Les libraires de l'émission, tout confinés soient-ils, sont quand même là, chacun chez eux. Derrière leur montagne de romans, ils ont tous appris à se servir de Reportit, l'application qui nous sert à nous connecter à la radio. Pour la petite histoire quand même, je leur ai envoyé un mail en début de semaine. Je leur ai dit, les amis, c'est comme vous voulez. Si vous pouvez pas, on se débrouillera, je ferai autre chose. Bon, bah, il y a 6 libraires dans l'équipe. Les 6 étaient partants. C'est quand même assez émouvant, c'est assez beau. Alors aujourd'hui, Stanislas Rigaud, très beau aussi, de la librairie Lamartine à Paris, et Thibaut Raden. Bonjour. De Vaucresson, librairie d'écriture, la célèbre. Salut les libraires.
Salut Nicolas.
Ça va, ça marche bien, Reportit, vous m'entendez bien?
Ah ouais, ça va.
Très, très bien.
Bon, alors c'est sujet libre cette semaine, vu les circonstances, et on commence avec vous, Stan. Votre choix de livre est encore plus différent, encore plus particulier cette semaine.
Oui, parce que je voulais évoquer avec vous le fait que nous étions arrivés à la finale du Prix des libraires. Alors, le Prix des libraires est un prix qui date de 1955 et qui tous les ans récompense un roman français élu par l'ensemble de la profession des librairies indépendantes de France. Et donc, cette année, depuis 2 jours, nous avons la sélection finale, les 5 romans qui sont en lice, et chaque libraire peut aller voter. Il suffit d'aller sur le site prix-des-libraires.fr et de voter. Cette année, il y a quand même une grosse nouveauté, c'est que les libraires peuvent voter de manière individuelle, alors qu'avant c'était par librairie. Les 5 livres sont des livres qui ont été sélectionnés depuis septembre de l'année dernière jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et donc les 5 finalistes sont une espèce de panel des grands oubliés de l'année dernière, comme Santiago Amigorena pour Le Ghetto Intérieur chez POL, et Akira Mizubayashi, Âme Brisée chez Gallimard, qui est un gros coup de cœur de très nombreux libraires depuis sa parution fin août l'année dernière et qui est donc là cette année en finale du prix. Et il y a 3 des livres qui sont aussi des gros coups de cœur de libraires depuis cette fois-ci début 2020. Le Michel Bernard, Le Bon Sens à la Table Ronde. On a aussi Le Rivage de la Colère de Caroline Lorange aux Escales et Débutante de Catherine Blondeau à Mémoire d'Encrier. Donc voilà, donc ça fait 5 ouvrages qui sont assez divers et qui représentent, on l'espère en tout cas, une bonne partie de la production. Et ce prix qui est remis donc cette année, ça sera le 13 mai, en tout cas on l'espère. Voilà, c'est l'idée, c'est de remettre effectivement un prix à un roman français, que ce soit un premier ou un roman confirmé, mais plutôt des auteurs qui n'ont pas eu de très grands prix jusqu'à présent.
Et le choix des libraires, c'est important pour un écrivain, c'est même très important. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans les librairies? Comment il est mis en avant?
Alors, le prix, une fois qu'il est décerné le 13 mai, sera reproposé en nouveauté, donc à l'office, comme on dit dans le métier, dès juin, et ressortira avec le bandeau, prix des libraires, et tout un artifice de promotion autour du livre.
Thibault, Radel, vous avez voté, vous?
Non, je suis un mauvais libraire.
C'est mal. Alors, vous le mettrez quand même en avant.
Non, mais j'ai pas voté parce que moi je suis tout jeune dans le métier de la librairie, donc il y a des trucs que je fais pas encore, parce que j'ose pas trop, mais oui, dans tous les cas, de toute façon, on le mettra en avant, on en parlera, on expliquera aux gens ce que c'est que le prix des libraires et pourquoi c'est important aussi.
Et Stanislas, il y en a un que vous préférez parmi les cinq, comment ça se passe, vous le défendez? Une fois qu'on a voté, on peut plus rien faire?
Moi, je me suis battu pour des titres. Alors, il y a eu 2 sélections de 10 titres, 10 titres pour la fin d'année 2019, 10 titres pour le premier trimestre 2020, donc 20 titres au total. Et on a eu la réunion qui est de vote virtuellement, malheureusement, là, à cause du virus, parce que la réunion devait se tenir lundi, donc elle s'est tenue, mais par téléphone, et on a donc extirpé 5 ouvrages qui sont ceux qui ont le plus plu au jury.
Donc
je ne
dirai rien.
Dire lequel des 5 je préfère, voilà. Mais j'en ai soutenu beaucoup.
Résultat, le 13 mai, Thibault Radel, c'est à vous, avec un roman d'un de vos auteurs préférés, Jacques Abeille, et le roman s'appelle La Clé des Ombres, c'est ça?
C'est ça. Alors, c'est pas un de mes auteurs préférés, mais mon auteur préféré pour moi. Je n'ai toujours pas trouvé mieux, pourtant je cherche. Et donc oui, La Clé des Ombres, en fait, c'est non pas un tome 3, mais le 3e livre de 9 romans qui ont contribué à créer le cycle des contrées. Jacques Abeille a fait un cycle des contrées, il y a 9 romans, et dont 3 principaux. Le premier étant Les Jardins Statuaires, dont j'ai déjà parlé à l'antenne. Le deuxième, c'est Le Veilleur de Jour. Et le troisième, donc, c'est La Clé des Ombres, qui vient de ressortir au Tripode. Il y a 3 semaines, 1 mois, au plus grand max. Bref. Et donc, moi, je le connaissais pas du tout, celui-ci. Et comme à son habitude, Jacques Abeille fait du Jacques Abeille, c'est-à-dire que c'est un type qui écrit comme on écrivait un classique, comme on écrit un grand roman, de la grande littérature. C'est absolument fantastique. Il n'y a pas d'autres mots, enfin, je pourrais utiliser des adjectifs absolument enfin, divers et variés pour décrire le style de Jacques Abeille et ses histoires, mais il y en a trop, j'aurais pas le temps. Et de toute façon, au bout d'un moment, je me perdrais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il a une écriture comme on ne le retrouve pas aujourd'hui, et c'est pour moi quelque chose de très important d'en parler en tant que libraire, mais en tant que lecteur aussi, c'est qu'il faut découvrir Jacques Abeille, c'est presque un indispensable. Et donc La Clé des Ombres, c'est un titre qui est bien mystérieux, et Jacques Abeille sait faire le mystère. C'est l'histoire de Brice, un espèce de trentenaire. Alors on ne sait pas trop son âge, mais on le devine un petit peu. Il est simplet. Il réfléchit pas, les gens le voient un peu comme un ogre, il a les cheveux longs, une grande barbe, enfin il sait pas ce que c'est qu'un rasoir, enfin bref. Et il est archiviste à la sous-préfecture. Et lui, comme il est simple, il réfléchit pas, c'est là qu'il est. Et c'est les archives, c'est aussi appelé le foutoir, parce que
ça peut être passionnant de trier les archives, hein. Attention.
Ouais, alors justement, c'est ce que nous explique Jacques Abeille, c'est que un jour, Brice se réveille et il se comprend que quelque chose a changé. Il sait pas quoi, c'est bizarre, il se réveille pas du tout comme d'habitude, il arrive même en retard au travail, chose qu'il ne fait jamais habituellement. Il fait son travail, et en fait, il nous explique comment est-ce qu'il travaille, il est hyper méticuleux, il a des méthodes, enfin, de dingue. Et en fait, il ne lit jamais ce qu'il trie. Parce qu'en fait, il fait pas attention, il comprend ce qu'il doit trier, mais il fait pas attention à quoi. Et un jour, dans un jardin à côté de la sous-préfecture, une ombre un peu mystérieuse, on sait pas si c'est vraiment quelqu'un ou si c'est son imagination, mais voilà, qui lui demande, en fait, de trouver un dossier. Et en fait, à partir du moment où il va devoir trouver ce dossier-là, il va se mettre à réfléchir. Et pour quelqu'un qui n'a jamais réfléchi, le fait de réfléchir aujourd'hui, ça le bouleverse, ça le chamboule, et donc ça chamboule tout. Et nous, on suit ce changement. Mais dans toute sa vie, donc dans son travail, dans ses relations amicales, parce qu'il a quand même des amis, même s'il est un peu le rejeton de cette ville, mais aussi dans l'endroit où il vit, parce que c'est très important, le lieu, dans l'œuvre de Jacques Abeille de manière générale, est très importante, mais dans La Clé des Ombres, ça l'est, parce qu'il y en a 2. Il y a la sous-préfecture, donc là où il y a les archives, et là où il vit. On déambule beaucoup avec lui,
Et tous ces changements de pièces sont aussi des changements, en fait, à travers le personnage de Brice. Et c'est assez fabuleux de voir comment est-ce que le personnage évolue. Moi, ça m'a, à la lecture, j'ai pensé à une chose dès le départ. C'était à Martin Eden, ce personnage qui ne sait rien dès le départ, qui est juste un travailleur, qui d'un coup se met, enfin, ça apprend à lire et écrire et veut raconter des histoires. Eh ben, c'est un peu ça, Brice. C'est que dès qu'il se met à réfléchir, eh ben, il devient quelqu'un d'autre et il a un but. Du coup, il devient un espèce de Martin Eden, une espèce de bel ami. Et en fait, on suit tout ça. Et il n'y a pas vraiment d'histoire, finalement. Il y a juste de la littérature, comme Jacques Abeille sait en faire et comme on n'en fait plus aujourd'hui. Il y a vraiment un moment assez phénoménal en fait en tant que lecteur quoi.
Et conseillé par Thibaut Raden, le libraire, il faut vraiment y aller. La Clé des Ombres de Jacques Abeille. Et donc pour Stanislas Rigaud, c'est le Prix des Libraires qui est à suivre. Résultat le 13 mai. Merci beaucoup à tous les deux. J'en profite pour dire que bon, chacun fait ce qu'il veut, mais le mieux quand même, c'est de noter dans un coin ou sur une feuille sur le frigo la liste des livres dont on entend parler en ce moment. Et on attend la réouverture des librairies pour les acheter. Je suis sûr que tout le monde a une petite pile de romans à lire depuis des années, c'est le moment. Et puis on achètera ensuite chez les libraires. Allez, on continue de flâner pour de faux dans les rayons. On part dans le secteur jeunesse maintenant avec Victor Dolande. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Caro.
Et comme chaque semaine, on retrouve à présent le conseil littérature jeunesse avec Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un album intitulé « La terrible histoire du petit biscuit » de Karl Novak et Magali Lehuche.
C'est l'histoire d'un petit biscuit qui se nomme Munchie. Il vit dans une biscuiterie de luxe et petite particularité à relever, il a deux jambes et deux bras. Un jour, Munchie décide d'échapper à sa condition de biscuit. Aucune envie de finir dans la bouche d'un petit morveux. Alors Petit Biscuit se fait la malle, sauf que dès qu'il met un pied dehors, l'un de ses compagnons de cavale se fait écraser. Munchie prend peur et retourne dans la première boulangerie ouverte. Il saute dans un panier avec écrit « Assortiment mini-budget ». Tout ça pour ça.
Mais il va quand même pas en rester là.
Non, pas du tout. Au début, Munchie boude, à l'étroit dans un panier avec des biscuits bon marché, il se sent un peu bête. Mais ça, c'est avant d'apercevoir la demoiselle spécialité, une jolie madeleine qui sent divinement bon. La suite, c'est Léon qui vous la lit.
La bouche de Munchie s'arrondit encore plus. Qu'elle est belle et qu'elle sent bon. Il ne savait pas qu'un biscuit pouvait tomber amoureux comme ça. Sentir son cœur de sucre battre fort sans se casser en mille morceaux. Madeleine aussi semble troublée. Elle rougit comme si elle était à la fraise. Cette nuit-là, tous deux se disent qu'ils s'aimeront toute la vie. Même si la vie d'un biscuit, ce n'est pas grand-chose. Ils rêvent de se marier, d'avoir des petits-enfants, beaux à croquer comme papa, tendres comme maman.
Demoiselle Spécialité et Munchie vont être achetés par une vieille dame. Je ne vous raconte pas tout, mais les aventures de notre petit biscuit sont loin d'être terminées. C'est vraiment désopilant en cette période de confinement. Essayez de lire plein de livres à vos enfants, ça leur offre une bulle dans ce quotidien un peu pesant, c'est essentiel. Et puis si vous commandez ce livre, la poste fonctionne toujours. Vous aurez aussi le plaisir de découvrir les illustrations géniales de Magali Lehuche, qu'on ne présente plus ici. Petit Biscuit est vivant grâce à son imagination. Il n'y a pas un détail qui est laissé au hasard. J'allais oublier, cet album, vous pouvez commencer à le lire à vos enfants à partir de 5 ans.
Et on rappelle le titre, La terrible histoire de Petit Biscuit de Karl Novak et Magali Lehuche. C'est aux éditions Sarbacane. Merci beaucoup Victor. C'était la dernière page de cette émission, Confiné déconfiné. Me reste à remercier Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, Xavier Joly pour la programmation musicale et laquelle, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée qui jongle pas mal en ce moment avec les lignes et les connexions dans tous les sens. Merci à lui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres qui déconfinent. À la semaine prochaine.